Jules Verne, 5 semaines en ballon. Chapitre 7. Détails géométriques, calcul de la capacité du ballon, l'aérostat double, l'enveloppe, la nacelle, l'appareil mystérieux, les vivres, l'addition finale. Le docteur Fergusson s'était préoccupé depuis longtemps des détails de son expédition. On comprend que le ballon, ce merveilleux véhicule destiné à le transporter par air, fut l'objet de sa constante sollicitude. Tout d'abord, et pour ne pas donner de trop grandes dimensions à l'aérostat, il résolut de le gonfler avec du gaz hydrogène, qui est 14,5 fois plus léger que l'air. La production de ce gaz est facile, et c'est celui qui a donné les meilleurs résultats dans les expériences aérostatiques. Le docteur, d'après des calculs très exacts, trouva que pour les objets indispensables à son voyage et pour son appareil, il devait emporter un poids de 4 000 livres. Il fallut donc rechercher quelle serait la force ascensionnelle capable d'enlever ce poids, et, par conséquent, quelle en serait la capacité. Un poids de 4 000 livres est représenté par un déplacement d'air de 44 847 pieds cubes. Ce qui revient à dire que 44 847 pieds cubes d'air pèsent 4 000 livres environ. En donnant au ballon cette capacité de 44 847 pieds cubes et en le remplissant, au lieu d'air, de gaz hydrogène, qui, 14,5 fois plus léger, ne pèse que 276 livres, il reste une rupture d'équilibre, soit une différence de 3 724 livres. C'est cette différence entre le poids du gaz contenu dans le ballon et le poids de l'air environnant qui constitue la force ascensionnelle de l'aérostat. Toutefois, si l'on introduisait dans le ballon les 44 847 pieds cubes de gaz dont nous parlons, il serait entièrement rempli. Or, cela ne doit pas être. Car à mesure que le ballon monte dans les couches moins denses de l'air, le gaz qu'il renferme tend à se dilater et ne tarderait pas à crever l'enveloppe. On ne remplit donc généralement les ballons qu'aux 2/3. Mais le docteur, par suite de certains projets connus de lui seul, résolut de ne remplir son aérostat qu'à moitié. Et puisqu'il lui fallait emporter 44 847 pieds cubes d'hydrogène, de donner à son ballon une capacité à peu près double. Il le disposa suivant cette forme allongée que l'on sait être préférable. Le diamètre horizontal fut de 50 pieds et le diamètre vertical de 75. Il obtint ainsi un sphéroïde dont la capacité s'élevait en chiffres ronds à 90 000 pieds cubes. Si le docteur Fergusson avait pu employer 2 ballons, ses chances de réussite se seraient accrues. En effet, au cas où l'un vient à se rompre dans l'air, on peut, en jetant du lest, se soutenir au moyen de l'autre. Mais la manœuvre de 2 aérostats devient fort difficile lorsqu'il s'agit de leur conserver une force d'ascension égale. Après avoir longuement réfléchi, Fergusson, par une disposition ingénieuse, réunit les avantages de 2 ballons sans en avoir les inconvénients. Il en construisit 2 d'inégale grandeur et les renferma l'un dans l'autre. Son ballon extérieur, auquel il conserva les dimensions que nous avons données plus haut, en contint un plus petit, de même forme, qui n'eut que 45 pieds de diamètre horizontal et 68 pieds de diamètre vertical. La capacité de ce ballon intérieur n'était donc que de 67 000 pieds cubes. Il devait nager dans le fluide qui l'entourait. Une soupape s'ouvrait d'un ballon à l'autre et permettait au besoin de les faire communiquer entre eux. Cette disposition présentait cet avantage que s'il fallait donner issue au gaz pour descendre, on laisserait échapper d'abord celui du grand ballon. Dût-on même le vider entièrement, le petit resterait intact. Alors pouvait-on se débarrasser de l'enveloppe extérieure, comme d'un poids incommode, et le second aérostat demeuré seul n'offrait pas au vent la prise que donnent les ballons à demi dégonflés. De plus, dans le cas d'un accident, d'une déchirure arrivée au ballon extérieur, l'autre avait l'avantage d'être préservé. Les 2 aérostats furent construits avec un taffetas croisé de lion, enduit de gutta-percha. Cette substance gommo-résineuse jouit d'une imperméabilité absolue. Elle est entièrement inattaquable aux acides et aux gaz. Le taffetas fut juxtaposé en double au pôle supérieur du globe, où se fait presque tout l'effort. Cette enveloppe pouvait retenir le fluide pendant un temps illimité. Elle pesait une demi-livre par 9 pieds carrés. Or, la surface du ballon extérieur étant d'environ 11 600 pieds carrés, son enveloppe pesa 650 livres. L'enveloppe du second, ayant 9 200 pieds carrés de surface, ne pesait que 510 livres, soit en tout 1 160 livres. Le filet destiné à supporter la nacelle fut fait en corde de chanvre, d'une très grande solidité. Les deux soupapes devinrent l'objet de soins minutieux, comme l'eût été le gouvernail d'un navire. La nacelle de forme circulaire et d'un diamètre de 15 pieds était construite en osier, renforcée par une légère armature de fer et revêtue à la partie inférieure des ressorts élastiques destinés à amoindrir les chocs. Son poids et celui du filet ne dépassaient pas 280 livres. Le docteur fit construire en outre 4 caisses de tôle de 2 lignes d'épaisseur. Elles étaient réunies entre elles par des tuyaux munis de robinets. Il y joignit un serpentin de 2 pouces de diamètre environ, qui se terminait par 2 branches droites d'inégale longueur, mais dont la plus grande mesurait 25 pieds de haut et la plus courte 15 pieds seulement. Ces caisses de tôle s'emboîtaient dans la nacelle de façon à occuper le moins d'espace possible. Le serpentin, qui ne devait s'ajuster que plus tard, fut emballé séparément, ainsi qu'une très forte pile électrique de benzène. Cet appareil avait été si ingénieusement combiné qu'il ne pesait pas plus de 700 livres, en y comprenant même 25 gallons d'eau contenus dans une caisse spéciale. Les instruments destinés au voyage consistèrent en 2 baromètres, 2 thermomètres, 2 boussoles, un sextant, 2 chronomètres, un horizon artificiel et un altazimut pour relever les objets lointains et inaccessibles. L'observatoire de Greenwich s'était mis à la disposition du docteur. Celui-ci d'ailleurs ne se proposait pas de faire des expériences de physique. Il voulait seulement reconnaître sa direction et déterminer la position des principales rivières, montagnes et villes. Il se munit de 3 ancres en fer bien éprouvées, ainsi que d'une échelle de soie, légère et résistante, longue d'une cinquantaine de pieds. Il calcula également le poids exact de ses vivres. Ils consistèrent en thé, en café, en biscuits, en viande salée et en pemmican, préparation qui, sous un mince volume, renferme beaucoup d'éléments nutritifs. Indépendamment d'une suffisante réserve d'eau-de-vie, il disposa 2 caisses à eau qui contenaient chacune 22 gallons. La consommation de ces divers aliments devait peu à peu diminuer le poids enlevé par l'aérostat, car il faut savoir que l'équilibre d'un ballon dans l'atmosphère est d'une extrême sensibilité. La perte d'un poids presque insignifiant suffit pour produire un déplacement très appréciable. Le docteur n'oublia ni une tente qui devait recouvrir une partie de la nacelle, ni les couvertures qui composaient toute la literie de voyage, ni les fusils du chasseur, ni les provisions de poudre et de balles. Voici le résumé de ces différents calculs. Ferguson, 135 livres. Kennedy, 153 livres. Joe, 120 livres. Poids du premier ballon, 650 livres. Poids du second ballon, 510 livres. Nacelle et filet, 280 livres. Ancre, instruments, fusils, couvertures, tentes, ustensiles divers, 190 livres. Viande, pemmican, biscuits, thé, café, eau-de-vie, 386 livres. Eau, 400 livres. Appareil, 700 livres. Poids de l'hydrogène, 276 livres. Lest, 200 livres. Total, 4000 livres. Tel était le décompte des 4000 livres que le docteur Ferguson se proposait d'enlever. Il n'emportait que 200 livres de lest, pour les cas imprévus seulement, disait-il, car il comptait bien n'en pas user, grâce à son appareil.